Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les émeutes de Los Angeles en 1992. Le 9 août 2014, à Ferguson, aux États-Unis, Michael Brown, un jeune afro-américain de 18 ans, est tué par Darren Wilson, un policier blanc qui voulait l'interpeller pour le vol d'une boîte de cigarillos. Quelques mois plus tard, Darren Wilson sort libre de son procès. Une plaie pour l'Amérique contemporaine qui voit, à intervalles réguliers, un jeune noir frappé ou tué par des policiers blancs. Trop souvent, ces derniers échappent à toute sanction pénale. Et en réponse, des quartiers entiers se soulèvent. L'illustration la plus tragique de ce schéma infernal s'est déroulée à Los Angeles en 1992. Le 29 avril de cette année-là, un jury populaire acquitte quatre policiers accusés d'avoir molesté Rodney King, un jeune afro-américain, lors d'une arrestation. Pendant 6 jours, ce verdict plonge la ville dans un chaos terrible, retransmis en direct à la télé. Los Angeles, la cité des anges et des démons, cette mégapole tentaculaire est l'élément principal de ces événements difficiles à nommer: émeute raciale, agitation sociale, insurrection citoyenne. Au-delà des mots, cette ville symbolise toutes les tensions et contradictions de l'hyperpuissance américaine des années 90. Au cœur de Los Angeles, deux nations cohabitent, celle d'Hollywood et celle de South Central, autrement dit celle des nantis et celle des oubliés du rêve américain. Les émeutes de 92, c'est tout cela à la fois. En seconde partie d'émission, nous recevons Papendia, historien spécialiste de l'Amérique du Nord. Il est l'auteur notamment des livres intitulés « La démocratie américaine au XXe siècle » et « Les Noirs américains en marche pour l'égalité ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Philippe Duclos, au mixage Mehdi Fatah.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Los Angeles, États-Unis, 3 mars 1991. Aux alentours de minuit et demi, à Lakeview Terrace, dans le nord-ouest de la ville, Rodney King, un jeune afro-américain de 26 ans, rentre chez lui en voiture. Deux autres personnes sont à bord. Ensemble, elles ont passé la soirée devant un match de basket et ont bu quelques verres. Tout à coup, derrière elles, les gyrophares du LAPD, la police de Los Angeles, clignotent, signent qu'ils doivent arrêter leur voiture et se rabattre sur le côté. Rodney King a certainement commis un excès de vitesse. Mais au lieu de s'arrêter, il accélère. Une course-poursuite s'engage alors entre le jeune homme et les forces de l'ordre. Rodney King le sait, il est en état d'ébriété. Or, 2 ans auparavant, il était en prison pour un braquage. Il a passé un peu plus d'un an sous les verrous avant d'obtenir sa liberté conditionnelle. Et il fonce ce jour-là à plus de 160 km/h sur une dizaine de kilomètres. Au bout de quelques minutes, il finit par s'arrêter. En quelques secondes, 3 voitures de police et 1 hélicoptère sont sur les lieux. Les policiers s'approchent du véhicule et ordonnent aux passagers de sortir. Les 2 amis de Rodney King obtempèrent, mais lui refuse. L'un des agents pointe son arme et réitère l'ordre. Là, il obéit. Les agents s'avancent pour les maîtriser, mais là encore, Rodney King, ivre et plutôt costaud, se débat et les repousse. Le sergent Stacy Coon, chef de la brigade présente ce soir-là, sort son taser et tire sur le jeune homme qui s'écroule. Alors qu'il essaye de se relever, d'autres agents sortent leur matraque et commencent à le rouer de coups. À quelques mètres de là, un plombier du nom de George Holliday s'est réveillé depuis quelques minutes. Il voit la scène et il raconte.
J'étais dans ma salle à manger. J'ai pris ma caméra et je me suis précipité au balcon. Le temps que j'arrive, ils étaient déjà en train de frapper le mec. Et à chaque fois qu'il essayait de se relever, il prenait un coup de matraque.
L'image est floue, mais sur 9 minutes, on distingue parfaitement la scène. Elle est difficilement supportable. On voit la résistance de Rodney King et la réplique disproportionnée des policiers. On voit le jeune homme à terre, quasiment immobile, et les agents qui continuent de frapper. Autour d'eux, 10 de policiers forment un arc de cercle et observent la scène impassible. Pourtant, les coups pleuvent encore et encore. 56 coups de matraque, 6 coups de pied, une violence sourde s'imprime sur la vidéo. Le bruit de l'hélicoptère couvre les cris supposés de Rodney King. Deux jours plus tard, George Holliday apporte la cassette vidéo à KTLA, une chaîne de télévision locale, qui décide de diffuser une séquence d'une minute. La vidéo est reprise par CNN et fait rapidement le tour du monde. Une vive émotion traverse les États-Unis. Un débat national s'ouvre sur la brutalité policière et l'injustice raciale. Si le passage à tabac de Rodney King n'avait pas été filmé, il serait passé inaperçu, rangé au rayon des multiples bavures du LAPD à l'encontre de la communauté noire. Rodney King est interviewé à la sortie de l'hôpital. Défiguré, la mâchoire fracturée et la cheville droite cassée. L'injustice et le racisme portent désormais ce visage. Tom Bradley, maire de Los Angeles depuis 1973, premier maire noir des États-Unis, ancien policier et symbole de la conquête politique des Afro-Américains, prend la parole.
J'ai lu les articles dans les journaux et je suis au courant de l'affaire. Je suis profondément choqué et scandalisé, comme tout le monde. C'est quelque chose qu'on ne peut, qu'on ne doit pas tolérer. Il faut maintenant retrouver tous les témoins et faire avancer l'enquête. Et je peux vous assurer qu'une fois que cela sera fait, des mesures appropriées seront prises par les autorités.
Rapidement, toutes les charges retenues contre Rodney King sont abandonnées. En revanche, les quatre agents qui l'ont battu sont poursuivis pour agression et usage excessif de la force. Leur procès, prévu dans un an, est attendu avec impatience. L'affaire Rodney King est devenue l'étendard des injustices subies par les Noirs face à la police blanche. La réalité d'abord, mais aussi la vidéo, ont beaucoup pesé sur l'opinion. Simi Valley, 29 avril 1992. C'est dans cette petite commune au nord de Los Angeles, dans le comté de Ventura, que se tient depuis un mois le procès de Stacy Coon et de ses trois collègues accusés de l'agression sur Rodney King. Pour éviter les troubles, vu la tension qui entoure l'affaire, l'administration a décidé de transférer le procès dans cette banlieue à majorité blanche. Depuis un mois, les Américains suivent ce procès au jour le jour. Ils ont d'abord vu les avocats choisir les membres du jury populaire. Sur les 12 jurés, il y a 10 blancs. Une asiatique et un latino, aucun noir. Comme le monde entier, ces 12 personnes ont vu la vidéo du tabassage de Rodney King. Mais justement, les avocats de Stacy Coon et des trois autres agents démontent cette preuve. La séquence est plus longue. Il faut aussi voir l'agressivité de Rodney King au début, disent-ils. Sa conduite en état d'ébriété, ajoutent-ils, la course-poursuite, ses antécédents judiciaires. Après un mois de débat, ce 29 avril 1992, à 15h15, les jurés annoncent leur verdict.
Au nom du jury populaire et des pouvoirs qui nous sont délivrés, nous déclarons que l'accusé ici présent, Stacy C. Coon, n'est pas coupable du crime d'agression et de blessures qui lui sont reprochés. En particulier, celui d'avoir utilisé une arme. Il n'y a pas de violation du code de la police dans le cas de cette intervention pour trouble à l'ordre public. Signé par la Cour le 29 avril 1992.
Not guilty. L'expression claque comme un affront. Les 12 jurés ont décidé d'acquitter les 4 policiers. Incroyable. Pourtant, cette fois, ce devait être un procès exemplaire, celui de la confiance restaurée entre la minorité noire américaine et la justice de son pays. Mais ce 29 avril 1992, le jury de Simi Valley en a décidé autrement. À l'entrée du tribunal, les manifestants se sont rassemblés dans l'attente du verdict. Alors l'annonce des résultats provoque des cris dans la foule. Des pancartes sont brandies, estampillées « shame », la honte. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, à Parker Center, devant le siège du LAPD, des manifestants se réunissent. Le groupe de protestataires grossit de plus en plus. « Pas de justice, pas de paix », scande la foule. Devant l'entrée de l'immeuble, une ligne de policiers en tenue anti-émeute protège l'accès du bâtiment. D'abord calme, le rassemblement évolue au fil des minutes. Et la manifestation change de visage. Les protestataires les plus âgés quittent les lieux, remplacés par une population plus jeune et plus virulente. Un kiosque à journaux est incendié, une voiture, puis deux. Une tension palpable gagne la ville. Quelques kilomètres de Parker Center, dans le quartier de South Central, l'annonce des verdicts met le feu aux poudres. Georgina Williams, une infirmière afro-américaine, est chez le coiffeur au moment de l'acquittement. Pourquoi l'évoquer ? Eh bien parce que sa situation symbolise ce quartier de South Central, immense ghetto noir de la deuxième plus grande ville des États-Unis. Georgina, comme de nombreuses femmes noires américaines de ce quartier déshérité, élève seule ses quatre enfants dans une maison achetée au coin de Florence et Normandy Avenue, au cœur de South Central. Depuis la fenêtre du coiffeur, elle voit des adolescents envahir la rue. Ce qu'elle ne voit pas, c'est son fils, Damien Williams, 19 ans, qui en bas de chez elle, avec d'autres jeunes, prend d'assaut le camion de Reginald Danny, un homme blanc d'une trentaine d'années. Le conducteur est extirpé de son véhicule et roué de coups avec une violence extrême. La scène est filmée depuis les hélicoptères des chaînes de télé.
Ok, nous avons l'info. Nous avons un scoop. Le LAPD vient juste de m'informer qu'ils ont annulé leurs opérations aériennes et qu'ils ont fait retirer toutes leurs patrouilles de la zone. Ils ont installé aussi un poste de commandement, donc ils essayent de se réorganiser. Ils s'y sont barricadés. Là, un peu plus loin, on voit un autre conducteur sévèrement blessé. Donc voici l'état de la situation à South Central. Tous les conducteurs de voitures ou de camions qui sont dans cette zone doivent s'attendre à... Oh, regardez ça! Oh, c'est terrible! Oh, il n'y a aucun officier de police présent sur place pour empêcher ça. C'est exact. C'est une véritable exécution. Non, ils n'ont pas bloqué le boulevard Florence, mais bon sang, il faut fermer le boulevard, c'est la seule solution. On va appeler le LAPD pour qu'il le fasse maintenant. Dites au LAPD de boucler la circulation sur le boulevard Florence au niveau de l'avenue Normandie, parce que les gens continuent à arriver dessus.
Il est 18h45. La violence de la scène retransmise en direct fait immédiatement penser à la vidéo de l'agression de Rodney King. Deux images terribles qui se répondent comme en écho pour traduire l'irruption de ce déchaînement collectif. La séquence est reprise en boucle par toutes les chaînes de télé. L'angle des avenues Florence et Normandie dans le quartier de South Central devient l'épicentre d'incidents qui se répandent comme une traînée de poudre. Et c'est rapidement le chaos dans tout South Central. Des cocktails Molotov sont envoyés sur les bâtiments. Des vitres sont brisées, des boutiques assaillies. Les pillages commencent. Des milliers de personnes envahissent le magasin et volent de la nourriture, de l'électroménager, des vêtements. En 2 heures à peine, près de 200 incendies sont déclarés. Les fumées dégagées dans le ciel de la ville obligent même l'aéroport international à modifier la trajectoire des avions. Au sol, dès que les pompiers arrivent, ils sont attaqués par les émeutiers. En plusieurs endroits, les forces de l'ordre essaient d'intervenir, mais rapidement débordées, elles reculent, laissant le champ libre aux membres des principaux gangs de la ville, les Crips et les Bloods, qui sortent armes au poing dans la rue. Ces jeunes, âgés de 12 à 21 ans, tirent à tout va. À 20h15, Louis Watson, 18 ans, s'écroule après avoir reçu une balle. C'est la première victime des émeutes de Los Angeles. Pierre-Yves Dugas, correspondant pour France Inter, fait le point.
Le maire noir de Los Angeles, Tom Bradley, a déclaré l'état d'urgence et appelle la population de la ville au calme. Cela dit, il dénonce vivement le verdict jugé raciste et irresponsable qui exonère les 4 policiers blancs accusés de brutalité excessive contre un délinquant noir de 27 ans. Pour le moment, on ne peut pas encore parler d'émeute à Los Angeles, bien que des incidents sporadiques et violents aient éclaté dans le quartier noir et déshérité du sud de la ville. La télévision américaine montre des images prises d'hélicoptères où l'un distingue plusieurs magasins en feu. Des hélicoptères de la police ont même été visés par des tirs de pistolet venant de la rue. Devant le quartier général de la police, au Parker Center, des centaines de manifestants lancent des bouteilles sur les forces de l'ordre casquées. Toutefois, ces incidents, pour sérieux qu'ils soient, n'ont pas encore pris l'ampleur des émeutes du quartier de Watts à Los Angeles, qui en 1965 avait fait 34 morts. Washington, Pierre-Yves Dugas, France Inter.
Au moment où éclatent les premiers incidents, le chef de la police, Daryl Gates, affirme que ses officiers contrôlent la situation. Erreur. Car quelques heures plus tard, il doit rejoindre en toute hâte le centre d'intervention d'urgence de la ville où il retrouve Tom Bradley, le maire. En plus de l'état d'urgence, les deux hommes décident la mise en place d'un couvre-feu. À la demande du maire, le gouverneur de Californie ordonne l'envoi de 2000 soldats de la garde nationale. Les autoroutes sont fermées pour empêcher les automobilistes de rejoindre les zones de violence. Des pans entiers de la ville sont livrés à eux-mêmes. Les émeutes se poursuivent et s'amplifient pendant la nuit. Et d'autres quartiers sont touchés. Le West Side à l'ouest, Pasadena au nord, Compton au sud. Plus de la moitié de Los Angeles est en proie à des émeutes. Au lever du jour, Los Angeles est une ville immense, sans limite. C'est comme arrêté. Le service de bus est suspendu. De nombreux employeurs demandent à leurs salariés de rester chez eux. Les rencontres sportives sont annulées et les écoles fermées. Nouveau couac dans l'organisation des forces de l'ordre. Les soldats de la garde nationale arrivés dès le matin sont mal déployés et trop lentement. Alors ils se révèlent inefficaces. Le couvre-feu n'est donc pas respecté et les émeutes se poursuivent, toujours plus violentes, toujours plus loin.
France Inter.
Hollywood connaît bien les flammes. Il y avait eu le célèbre incendie d'Autant en emporte le vent et celui tout aussi célèbre de la Tour Infernale. Seulement voilà, cette nuit, ce n'était pas du cinéma. Cette nuit, Hollywood, le symbole du mythe et du rêve, a été rattrapé par la réalité. Les émeutes qui secouent Los Angeles depuis hier ont frappé Hollywood Boulevard, en partie incendié. Malgré l'imposition du couvre-feu, les scènes de pillage se sont donc, semble-t-il, étendues cette nuit à de nouveaux quartiers de la ville. Le dernier bilan fait état de 24 morts et 700 blessés. Et la police semble débordé, comme en témoigne ce photographe français Jean-Pierre Plumier, joint au téléphone par Dominique Bayard.
Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de police dans les rues des quartiers affectés qu'hier, mais ils sont complètement débordés. À un moment donné, j'ai vu un magasin de bijoux qui s'est fait vandaliser, et il y a eu 4 voitures de police qui sont arrivées pour un peu sauver l'affaire, mais à peine 2 blocs de cet endroit-là, il y avait toute une galerie de shopping qui se faisait piller et ainsi de suite. Quoi. Ça se déroule bloc après bloc et ça sent pire.
Après 2 jours et 2 nuits d'émeutes, Los Angeles est un véritable champ de bataille. Pourtant, l'hyperpuissance du président républicain George Bush est à son apogée après l'effondrement de l'URSS et la première guerre du Golfe. Mais l'image d'Épinal états-unienne se fracasse sur sa terrible réalité sociale, le modèle américain vacille. Provoquée par un sentiment d'injustice, la crise de Los Angeles traduit un malaise social devenu insurrection sur fond d'affrontements multiethniques.
Make you say.
La Los Angeles, 30 avril 92, deuxième nuit d'émeute, les habitants prennent la parole.
Il y a eu les images sur la caméra. Les profs sont bien là, mais on s'y attendait quand même à ce verdict.
C'est la seule façon qu'ils ont de s'exprimer, avec leur violence, leur colère. Et tant qu'on n'aura pas amélioré les infrastructures avec des écoles pour les instruire, tant qu'on ne les traitera pas avec justice, ça continuera.
Je les comprends, mais je ne peux pas les approuver. C'est notre quartier. Et ici, c'est déjà la crise. Et là, on va encore perdre des emplois.
À la lumière de ces témoignages, la première interprétation des événements qui secouent Los Angeles en cette fin de mois d'avril 92, c'est la réaction de la communauté afro-américaine face au verdict jugé inique dans l'affaire Rodney King. Alors, les commentateurs se concentrent sur les images des conducteurs blancs lynchés en direct au carrefour de South Central comme une réponse, disons, expiatoire. Mais en réalité, ces incidents trahissent une situation bien plus complexe. Ils témoignent de la profonde mutation des quartiers pauvres de Los Angeles. Car dans le rang des émeutiers, on ne retrouve pas que des Afro-Américains. Les Latinos sortent aussi dans la rue. La situation sociale de ces quartiers s'est dramatiquement détériorée depuis une dizaine d'années. Les emplois industriels sont partis, les présidents républicains successifs Ronald Reagan et George Bush ont supprimé les aides sociales, la criminalité et le trafic de drogue ont explosé. Résultat, les affrontements entre gangs et communautés augmentent. En fait, Los Angeles était assis sur un volcan, comme l'aurait dit Alexis de Tocqueville, ce Français qui a si bien connu les États-Unis. D'ailleurs, dans les scènes de pillage, on remarque que ce ne sont pas seulement les jeunes qui prennent d'assaut les magasins. Les adultes, les femmes, les enfants y participent. Des noirs, des hispaniques, des blancs. On ne vole pas que des objets riches ou ostentatoires, on vole surtout des biens de première nécessité. Certains experts vont jusqu'à parler de jacquerie urbaine postmoderne. Et des témoins racontent.
J'ai vu des pillages de magasins en feu où les gens rentraient quand même et volaient des ordinateurs, des stéréos. C'était un peu la folie. Devant la police n'intervenait absolument pas. C'était Beyrouth en fait.
Regardez ces gens qui pillent, qui apprennent à leurs enfants comment voler. J'ai honte pour ma communauté.
Lors des pillages, les magasins ne sont pas attaqués au hasard. Non, sont visés en priorité les commerces tenus par les Américains d'origine coréenne. Il se trouve que ces derniers ont racheté depuis une dizaine d'années les commerces d'alcool et les petites épiceries des quartiers noirs. Ils sont accusés par les communautés afro-américaines et latinos de pratiquer des prix trop élevés et de voler les emplois. Face à l'absence des forces de l'ordre, la communauté coréenne réagit et forme des milices pour défendre ses propriétés. Depuis les toits des magasins ou en pleine rue, des affrontements armés éclatent entre communautés. Et surtout, les émeutes se propagent à d'autres villes.
Ce devait être une manifestation pacifique, mais cette nuit, la fièvre de Los Angeles a gagné San Francisco. La ville est donc ce matin sous couvre-feu. Là aussi, c'est l'état d'urgence. Vitrines fracassées et pillages généralisés. Ici, 900 personnes ont été arrêtées. Une autre ville met les mêmes violences, c'est Atlanta. Là aussi, c'est une manifestation qui dégénère, bilan, 26 blessés, un centre commercial totalement dévasté et l'état d'urgence décrété. Ces images, enfin, ont été filmées à Seattle, mais Las Vegas est-elle aussi sous couvre-feu? En fait, la plupart des grandes villes américaines sont atteintes, les manifestations ont aussi gagné Dallas et Boston.
Le 1er mai 92, au troisième jour des émeutes, la situation devient critique. À Los Angeles, la population se mobilise pour tenter de calmer les émeutiers. Une manifestation pacifique est organisée par la communauté coréenne. Et ils sont plusieurs milliers à marcher pour appeler à la fin des révoltes. Dans South Central, les églises protestantes noires essaient de raisonner les membres de leur communauté. C'est le cas notamment du pasteur Cecil Murray, dont les prêches ne condamnent pas la violence des émeutiers, mais les exhortent à exprimer leur révolte et leur tristesse par des chants et des prières. Et ces cérémonies filmées ont un impact finalement sur les événements. Par ailleurs, ce 1er mai 92, un autre homme se décide à prendre la parole, au bord des larmes, la voix tremblante. Rodney King lui-même s'exprime.
Je voudrais juste vous dire... Ne pourrait-on pas s'entendre? Arrêtez de rendre la vie des personnes âgées et des enfants si dure.
ce 1er mai 92, les regards se tournent aussi vers le pouvoir. La résonance politique des événements est particulièrement forte, puisque les États-Unis sont en pleine campagne pour l'élection présidentielle prévue au mois de novembre. Le président républicain sortant, George Bush, est le grand favori du scrutin. D'autant qu'en face, son adversaire a mis du temps à se dégager. Il s'agit du gouverneur de l'Arkansas, jeune et peu connu, en tête des primaires démocrates. Il s'appelle Bill Clinton. Il se trouve que depuis le début de la campagne, la question sociale et les problèmes des minorités sont totalement absents. L'explosion des émeutes de Los Angeles les replace sur le devant de la scène. Jesse Jackson, le révérend afro-américain, candidat malheureux à deux primaires démocrates dans les années 80, se rend très vite à Los Angeles. Dans les rues en feu, il dénonce la réduction des aides sociales et les errements des politiques républicaines. Face aux événements, George Bush a longtemps tergiversé dans sa communication et dans ses décisions. Tout comme les forces de l'ordre, son administration a été surprise par la spontanéité et la violence des émeutes. Après deux jours et deux nuits d'affrontements, acculé, George Bush réagit enfin. Le 1er mai, il confie le dossier à Colin Powell, le chef de l'état-major interarmé. Décision est prise d'envoyer les marines à Los Angeles. Les soldats débarquent dans la ville à bord de leur jeep, couleur sable, rendu célèbre au moment de la guerre du Golfe. La scène est surréaliste. Los Angeles donne l'impression d'être en état de siège. Au total, entre les policiers, les gardes nationaux et les marines, près de 20 000 soldats sont déployés à travers la ville pour ramener le calme. Les pillages, les incendies et les échanges de tirs se réduisent au fil des heures et le 4 mai, après 6 jours d'émeute, la situation s'apaise. Le 7, George Bush se rend à Los Angeles.
C'est une visite politiquement périlleuse que George Bush entame à Los Angeles. Il arrive une semaine après les émeutes et 2 jours après Bill Clinton. Comme son rival dans la course à la présidence, George Bush devrait rester prudent. Il doit rencontrer les leaders des communautés noires, asiatiques et hispaniques, participer à une messe œcuménique et visiter les quartiers dévastés. De l'avis de ses conseillers, c'est le déplacement le plus délicat de sa campagne. Il doit rassurer l'électorat blanc et c'est pour cela qu'il insiste sur les sanctions contre les émeutiers et sur la restauration de l'ordre. En même temps, George Bush doit montrer qu'il se préoccupe du sort des communautés noires défavorisées et dès son arrivée à l'aéroport, il a détaillé les aides d'urgence qu'il apporte en tout 600 millions de dollars. Dans la communauté noire de South Central, l'arrivée du président est accueillie dans la plus totale indifférence. Dans les quartiers touchés par les émeutes, personne ne pense qu'il arrive avec des solutions. Les Coréens sont plus mobilisés. Plusieurs centaines d'entre eux manifestent actuellement devant l'hôtel du président pour demander des réparations.
Depuis quelques jours déjà, la situation s'est calmée à Los Angeles. Mais les stigmates de ces 6 jours de révolte sont présents dans le paysage urbain, forcément. Alors, pendant qu'on balayait les rues, on fait les comptes. Et le bilan est terrible. Une 50aine de morts, la moitié tués par balle, dont 10 par la police. La plupart sont des hommes entre 18 et 45 ans, latinos ou afro-américains. On compte plus de 2000 blessés, 11 000 incendies, des milliers de bâtiments détruits et des dégâts matériels qui avoisinent le milliard de dollars. Plus de 10 000 personnes sont arrêtées, la moitié est hispanique. Les tribunaux jugent les fauteurs de troubles à la chaîne et tout ce petit monde vient garnir des prisons déjà largement surpeuplées. Surtout, la plupart des personnes arrêtées ont un casier judiciaire vierge. On prend des décisions politiques aussi. La ville est déclarée zone sinistrée, des aides financières spécifiques sont allouées à sa reconstruction. Le chef de la police, Daryl Gates, qui devait prendre sa retraite dans quelques mois, voit son départ précipité. Il est remplacé par Willie Williams, un afro-américain de 48 ans, réputé pour avoir rétabli les relations jusque-là très tendues entre la police et la communauté noire de Philadelphie. Et puis une commission est lancée pour enquêter sur la police de Los Angeles. Enfin, le maire met en place un grand plan de reconstruction pour les quartiers de Watts et South Central. Un plan ambitieux pour ces quartiers déshérités. Il a pour ambition de faire revenir les grandes entreprises, booster les emplois, reconfigurer l'espace urbain. Malgré tout, certains signes laissent penser que les plaies mettront du temps à cicatriser. Quelques jours après les événements, on a vu plusieurs magasins accrocher une pancarte sur leur devanture. Il y était écrit « Black Owned », propriété noire. Ceci pour éviter le boycottage ou les agressions. Le 11 avril 1993, un an après les émeutes, 2 des 4 agents qui avaient battu Rodney King sont rejugés et condamnés à 2 ans de prison. Dans l'intervalle, en novembre 92, c'est Bill Clinton, le candidat démocrate, qui remporte finalement l'élection présidentielle contre George Bush. La question sociale a été replacée au cœur de la campagne. Les émeutes de Los Angeles sont certainement passées par là. Au fil du temps, la vie reprend son cours dans la ville, mais on a du mal à qualifier la situation de normale, tant Los Angeles cristallise les tensions et les contradictions de la société américaine et de son fameux rêve. La promesse que tout est possible pour n'importe qui, mais qu'en cas d'échec, on vous laissera sur le bord de la route. Un pays qui a promu le melting pot et qui laisse pourtant en son sein exploser les tensions entre communautés. Il y a 8 ans, les électeurs américains ont élu un président noir, autre symbole d'arrêt américain toujours en marche. Pourtant, comme Mike Brown à Ferguson en 2014, ils sont encore nombreux, trop nombreux, ces représentants des minorités à tomber sous les balles de la police. Le problème du rêve, tout américain qu'il soit, c'est qu'il n'est jamais très éloigné du cauchemar.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les émeutes de Los Angeles en 1992, avec notre invité Papa Ndiaye. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je le disais, un historien, spécialiste de l'Amérique du Nord, vous avez écrit un certain nombre de livres sur les États-Unis. Le dernier en date, je le cite, c'est Histoire de Chicago, hein, en 2013, chez Fayard. Alors, c'est en 1991 que vous partez aux États-Unis pour l'Université de Virginie pour y faire votre thèse, c'est bien ça?
91. Oui, absolument.
Bon, alors en 91, vous êtes aux États-Unis pendant les événements de Los Angeles, donc en 92 aussi pour le procès. Vous, quel souvenir vous avez de cet événement que vous avez vécu plus ou moins à distance, que vous étiez aux États-Unis, mais pas tout près de Los Angeles non plus.
Alors, hein. De l'autre côté
de
du
l'autre
pays.
Côté, de l'autre côté. Quel souvenir vous en avez de l'affaire Rodney King tout d'abord, puis du verdict, puis des premières images des émeutes.
Mon souvenir, c'est d'avoir été comme la population américaine. À ce moment-là, suspendu aux chaînes de télévision de type CNN, le pays retenait son souffle en se rappelant les émeutes des années 60, parce que cette émeute-là n'est pas nouvelle, bien entendu.
On y reviendra d'ailleurs.
Dans l'histoire des États-Unis, le verdict de Rodney King, je me souviens vraiment de la manière dont cet événement a éclipsé la campagne présidentielle qui faisait la une de l'actualité à ce moment-là. Et occupé les Américains pendant plusieurs semaines.
Et tout le monde parlait de ça.
Oui, tout le monde en parlait. Ouais. Tout le monde en parlait. Ça faisait la une de la presse. Il avait le sentiment que quelque chose de grave se passait. Aussi la possibilité, qui ne s'est pas avérée finalement, que les émeutes de Los Angeles se diffusent à l'ensemble du pays. Finalement, ça n'a pas été tout à fait cela, à part San Francisco, à l'inverse de ce qui s'est passé dans les années 1960. Donc, il n'y a pas eu de contagion émeutière, si je puis dire. Mais enfin, chacun a bien reconnu qu'il s'était passé quelque chose d'important. Et puis, 50 morts, c'est aussi un bilan catastrophique.
Avant le verdict, est-ce qu'on s'attendait justement à ce que les policiers soient condamnés ou est-ce qu'on se disait, oula, ils ont frappé un noir, non, ils vont s'en sortir? C'était quoi le sentiment?
Je me souviens qu'on pensait tout de même que les policiers seraient condamnés. Mmh. Seraient condamnés de manière relativement légère, puisque la sélection du jury et le lieu du tribunal laissaient déjà penser que le verdict allait être relativement clément. Mais de là à amnistier complètement les policiers, il y a une marge. Et donc le verdict est intervenu comme un coup de tonnerre, finalement, ce qui, bien entendu, a joué un rôle dans le déclenchement des émeutes. Les gens ont été absolument stupéfaits d'apprendre que les policiers n'étaient pas condamnés, et même pas condamnés à des peines symboliques.
Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Vous vous êtes dit, on vient d'allumer une mèche, là? Vous avez,
non,
ou est-ce que vous avez été surpris par les
émeutes? J'ai été surpris, comme émeutes. Tout le monde. Qu'il y ait des manifestations de colère, d'indignation, c'est une chose relativement attendue, mais que cela prenne l'ampleur que l'on a connue, là, c'était beaucoup plus surprenant. Et puis, cela a mis en lumière, évidemment, les maux urbains d'une grande ville comme celle de Los Angeles.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, cette histoire reproduit une sorte de schéma des émeutes des nuances près, bien sûr, des années 60. Alors, on pense à Watts en 65, Detroit en 67, où un sentiment d'injustice entraîne des révoltes de la communauté noire américaine. Pourtant, on est à Los Angeles 30 ans après la conquête des droits civiques, le combat de Martin Luther King et ensuite de Malcolm X. Est-ce que ce combat n'a pas porté ses fruits ou pas tous?
Ce combat a porté ses fruits, mais pour l'essentiel dans le sud des États-Unis, puisque l'accès au droit de vote, la fin de la ségrégation, ça concernait le sud des États-Unis. Et donc, d'autres régions des États-Unis, l'ouest et puis le nord et le nord-est des États-Unis, se sont mobilisés après les lois de 64-65 en disant, et nous, finalement, nos problèmes ne sont pas pris en compte par ces lois. Nous avons des problèmes socio-économiques, des problèmes de relations avec la police, auxquels Martin Luther King s'est intéressé, mais de manière relativement latérale, en 66 à Chicago. Et donc les émeutes surviennent au fond comme des échos au mouvement pour les droits civiques pour signaler les problèmes spécifiques du monde noir, des ghettos de l'ouest et du nord des États-Unis.
Alors à Watts, en 65, après les émeutes, Martin Luther King s'est rendu dans la ville et a prononcé cette phrase. Il a dit « Je me suis battu toute ma vie pour que les noirs aient le droit de manger un hamburger. Maintenant, je dois me battre pour qu'ils puissent l'acheter. » Alors ça, c'est très important parce que 30 ans après, à Los Angeles, on en est encore là. Finalement, il y a la ségrégation civique. Bon, ça va mieux, évidemment, il y a eu des progrès, mais il y a une ségrégation sociale. Et moi, j'ai l'impression qu'à travers ce récit, c'est ça qui ressort avant tout.
Oui, c'est la question de l'accès au travail, c'est la question socio-économique qui est absolument centrale dans ces grands ghettos de Los Angeles, de New York ou de Detroit en 65. Et c'est encore plus vrai en 1992, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, parce que la situation s'est dégradée entre les années 60 et 1992, essentiellement en raison de la disparition des emplois peu qualifiés, des emplois industriels peu qualifiés auxquels la population noire avait accès jusqu'aux années 60. Ces emplois disparaissent, les villes entrent dans des crises financières dans les années 70. L'arrivée du trafic de drogue, du commerce de la drogue comme économie alternative donne à la fois de l'argent mais augmente le niveau de violence de manière très spectaculaire avec les gangs qui se disputent les territoires de vente de la drogue. Bref, ces quartiers-là, ces quartiers noirs pauvres, ont sombré entre les années 60 et les années 90. Il faut ajouter à cela que la fraction de la population de la classe moyenne noire qui vivait dans ces quartiers parce qu'elle n'avait pas le choix jusqu'aux années 60, quand elle a pu quitter ces quartiers, et on la comprend, elle est partie s'installer dans des zones plus agréables. Et donc la population noire s'est trouvée en quelque sorte appauvrie et concentrée dans des zones qui sont précisément celles auxquelles on a affaire en 92.
Ce qui est saisissant, c'est que si on prenait votre réponse juste au début ou au milieu, on pourrait penser que vous parlez aussi de la France et de certaines villes européennes. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Quelle est la responsabilité des politiques républicaines de Reagan et Bush dans cette affaire? Elle est évidente, non?
Oui, elles ont accentué l'isolement politique, l'isolement social de cette population dans les années 1980. Les gouvernements républicains ont coupé les subsides aux grandes villes comme Los Angeles, par exemple, dans les années 1980. Grandes villes, d'ailleurs, solidement tenues par le Parti démocrate. Et puis, les coupes aussi dans les programmes sociaux dans les années 80 ont accentué les difficultés de la population la plus pauvre. Donc, les gouvernements républicains ont encore accentué des difficultés, mais qui préexistaient à l'arrivée au pouvoir de Reagan.
Alors, en 2008, Barack Obama est élu, il donne un motif d'espoir immense à la communauté noire, et puis aussi à ce qu'on pourrait appeler la gauche américaine, je ne sais pas si on peut parler de gauche américaine, enfin bon, en tout cas les anti-républicains, et on lui fait confiance pour régler tout ou partie de ces questions raciales. Alors écoutez, une archive justement de son célèbre discours sur ce sujet, c'était à Philadelphie en mars 2008, pendant la campagne des primaires. Et là, vous allez entendre, il commence par parler de la Constitution américaine rédigée 200 ans auparavant.
Et pourtant, des mots sur un parchemin ne suffirent ni à libérer les esclaves de leurs chaînes, ni de donner aux hommes et aux femmes de toute couleur et de toute croyance leurs pleins droits et devoirs de citoyens. Il fallait encore que de génération en génération, les Américains s'engagent en luttant et protestant, dans la rue et dans les tribunaux, et en menant une guerre civile et une campagne de désobéissance civile, toujours en prenant de grands risques. Pour réduire l'écart entre la promesse de nos idéaux et la réalité de leur temps. C'est l'une des tâches que nous nous sommes fixées au début de cette campagne. Continuer la longue marche de ceux qui nous ont précédés. Une Amérique plus juste, plus égale, plus libre, plus généreuse et plus prospère. J'ai choisi de me présenter aux élections présidentielles à ce moment de l'histoire parce que je crois profondément que nous ne pourrons résoudre les défis de notre temps, que si nous les résolvons ensemble, que nous ne pouvons parfaire l'Union, que si nous comprenons que nous avons tous une histoire différente, mais que nous partageons les mêmes espoirs, que nous ne sommes pas tous pareils, et que nous ne venons pas tous du même endroit, mais que nous voulons aller dans la même direction, vers un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants.
Barack Obama est un homme subtil et intelligent, il faut savoir lire entre les lignes. Il y a peut-être déjà en germe le positionnement d'Obama pendant ses deux mandats finalement sur la question raciale, l'idée d'être le président de tous les Américains, donc de ne pas spécifier son action sur la communauté noire, ce qui avait été l'erreur de Jesse Jackson en 80 justement. Mais c'est une position extrêmement difficile à tenir parce qu'elle génère forcément de la déception. Est-ce qu'elle a généré de la déception ?
Certainement, puisque en dépit de ce discours, Obama avait été relativement prudent hein, sur cette question, en effet, pendant la campagne de 2008. Mais la population noire américaine a vu en Obama celui qui allait, au fond, réparer, soigner l'Amérique de ces maux raciaux qui ont une longue histoire, bien sûr. Donc ça, c'est une déception parce que 8 ans après, pratiquement, la situation n'a pas fondamentalement changé du point de vue des grands indicateurs socio-économiques, du point de vue de la situation en santé, en justice, à l'évidence, du point de vue de la question très grave des relations entre la police et le monde afro-américain.
Et ça ne s'est pas arrangé du tout, parce qu'il y a eu des derniers faits qui ont été l'affaire Trayvon Martin, voilà. Manifestation à Ferguson, la mort de Michael Brown, ça témoigne de ça.
C'est cela, exactement. Et qui viennent, au fond, rattraper Obama à la fin de son 2e mandat, lui qui s'en était distancié de ces questions pour des raisons qui sont des raisons à la fois stratégiques. Sa propre carrière s'est faite à l'échelon national, précisément en montrant qu'il était... qu'il parlait à l'ensemble des Américains, et aussi parce qu'il pensait que le retour de la croissance, que la loi Obamacare aussi de 2009 allait bénéficier aussi au monde afro-américain, qu'il fallait pas forcément s'y intéresser. Il est rattrapé par la question raciale, oui, comme tous les présidents américains finalement.
Alors on va écouter ensemble une chanson qui vaut archive, hein. C'est la chanson All Right d'un rappeur américain nommé Kendrick Lamar sur son 2e album. Le refrain Nigga, we gonna be alright, qu'on pourrait traduire par Négro, ça ira mieux ou ça va aller, est repris par les manifestants à Ferguson et ailleurs dans les manifestations justement contre les bavures. On l'écoute et on en parle ensuite ensemble.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Right, nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Alright, do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
What you want? You a house, you a car, 40 acres and
motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it, I know it's illegal. I don't think about it, I deposit every other zero. Thinking of my partner, put the candy, painting on a Rico. Digging in my pocket, in a profit, big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. I don't talk about it, be about it, every day I seek you. If I got it, then you know you got it, heaven I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
I keep my head up high, I cross my
nights in my prayers.
I remember you was conflicted.
Qu'est-ce que nous dit Kendrick Lamar, vous qui êtes bilingue?
Ah oui, il fait allusion là de façon assez ironique, hein, puisque ça va aller, mais en même temps, c'est une litanie de problèmes. C'est aussi une manière de dire que on a traversé beaucoup de problèmes dans le passé, et donc ça va. On est capable aussi de les affronter aujourd'hui.
Alors c'est pas un hasard hein, s'il a été reçu ce rapport par Barack Obama. Parlons justement un peu de la culture américaine. La question raciale, ethnique, s'est largement développée à travers la culture. Tout court, on pense au hip-hop, on pense au cinéma aussi, on pense aux séries. Il y a un thème puissant là. Hein.
Oui, qui est le thème des maux urbains, des difficultés des grandes villes américaines, qui traversent au fond toute la musique américaine depuis les années 80, avec le grand développement du hip-hop dans toutes ces variations à la fois côte est et côte ouest. Hein. Il y a un hip-hop spécifique à Los Angeles qui a pris même le qui est le haut du pavé hein, depuis une quinzaine d'années et qui exprime très très bien à la fois les frustrations de la jeunesse urbaine américaine, noire et hispanique en particulier, les difficultés dans les relations avec la police. La place de la police, elle est très importante dans le hip-hop. Et puis en même temps, au fond, un hip-hop qui a une dimension relativement aussi conservatrice hein, du côté de la côte ouest, parce que on exprime des désirs de consommation plutôt que des désirs de révolution, si je pouvais le formuler ainsi, avec des formes de consommation assez hostile. Ostentatoire du point de vue des rêves de belles voitures, de chaînes en or, etc. Et donc, politiquement, ça exprime aussi la situation de ces quartiers, c'est-à-dire qu'on voit assez peu de structuration politique, même si les choses changent un peu depuis un an avec le mouvement Black Lives Matter, par exemple.
Bah, de toute façon, il y a aussi un manque de structuration urbaine à Los Angeles, qui est une ville construite autour du concept de la propriété individuelle, sans centre-ville véritable ou plusieurs centres. Sur l'océan Pacifique aussi est installée cette ville à quelques kilomètres du Mexique. Elle est devenue un point névralgique des migrations successives hispaniques, asiatiques. C'est une ville particulière, Los Angeles.
C'est une ville, c'est la deuxième ville des États-Unis. Elle a un vrai dynamisme économique et démographique. D'ailleurs, ça explique pourquoi elle s'est plutôt bien remise des émeutes de 92, par contraste avec Detroit qui sombre depuis les années 1960. Et en même temps, ce dynamisme avec l'arrivée de la population hispanique, la population asiatique aussi, qui est très présente, a relativisé la place de la population afro-américaine, qui était plus importante, relativement parlant, dans les années 1960. Tom Bradley, le dernier maire noir de Los Angeles, depuis, d'autres maires se sont succédés, mais le monde afro-américain a reculé politiquement dans cette ville. Et donc, au fond, c'est une ville où le monde noir américain se trouve en situation plus difficile que dans une ville comme Chicago, par exemple, où il tient encore assez solidement la politique locale.
Alors, je disais tout à l'heure que ce schéma, on pouvait le plaquer sur ce qui peut se passer en France, et on a les souvenirs de 2005. Alors, c'est toujours un peu hasardeux de faire des comparaisons entre deux pays qui ne sont pas les mêmes, mais enfin, quand même, il y a quand même un cousinage. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Voisinage, avec une situation de population isolée, avec des relations difficiles avec la police. Généralement, les émeutes en France comme aux États-Unis commencent à la suite d'une altercation ou d'une violence policière. C'est ce qui s'est passé dans les années 60, c'est ce qui s'est passé en 92, c'est ce qui s'est passé en 2005 en France, qui mettent à nu la question de ces relations entre la police et les jeunes, et puis la question de l'emploi, la question des discriminations, de ce qu'on appelle le racisme structurel du côté de la sociologie. Donc là, il y a des similitudes, et puis de grandes différences, parce que du côté français, les services publics n'ont pas été retirés de ces quartiers d'une manière comparable.
Ils ont été diminués.
Ils ont été diminués, mais on n'a pas du tout la situation d'abandon, disons, politique et sociale qui est celle des États-Unis.
Ou de Londres, souvenez-vous, des émeutes de Tottenham en juillet 2011.
Absolument. Et on n'a pas non plus des effets de concentration aussi massifs, même si localement cela peut exister en France, mais on n'a pas du tout des situations d'homogénéité, disons, ethno-raciale en France, ces quartiers. Ce sont des quartiers populaires avec une forme de diversité encore sociale, de population qui n'existe plus aux États-Unis. Le quartier de Watts, par exemple, est un quartier très homogène du point de vue de sa population massivement afro-américaine et un peu hispanique.
Alors, nous sommes en 2016, c'est une année électorale aux États-Unis. Un nouveau président, ce qui ne va pas être Obama, évidemment, deux mandats et pas plus aux États-Unis. Un nouveau président va être élu en novembre, va entrer en fonction en janvier 2017. Une campagne animée par un certain Donald Trump. Alors, on a vu des gens comme ça, un petit peu borderline ou même hors système, se présenter pour les primaires, puis ça n'allait pas beaucoup plus loin. Là, qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump ?
Il attire l'électorat républicain, radicalisé depuis... l'élection d'Obama. Obama joue un rôle repoussoir très très fort, mais cet électorat républicain n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. C'est un électorat qui a dérivé à droite, qui est pris en otage aussi par le monde évangélique qui est très mobilisé autour de Trump, de Cruz aussi, d'un autre candidat républicain. Et il a une force tout à fait importante, mais si on se réfère aux autres campagnes présidentielles américaines, ceux qui caracolent dans les sondages au mois de janvier,
ça tient
un peu plus longtemps. Il y a de quoi regarder d'un peu plus près. On pensait que la baudruche dégonflerait aux alentours de Noël. On n'en est pas là. Mais si d'aventure le Parti républicain choisissait Trump, à la suite d'une surmobilisation de ses partisans, alors le Parti républicain risquerait d'affronter une défaite électorale comparable à celle d'un Goldwater, par exemple, en 64. Quelque chose d'absolument catastrophique. Je ne le souhaite pas au Parti républicain.
C'est pas qui perd gagne, c'est qui gagne perd finalement. Qui gagne au début et finalement finit par perdre.
C'est une situation, je pense, extrêmement difficile pour le Parti républicain et pour l'isolement d'ailleurs de ses élites.
Merci infiniment, Pape Ndiaye, pour tous vos éclairages. Au revoir.
Merci Fabrice Drouel et à demain pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles sur les pirates du rail, l'attaque du Glasgow-Londres. Votre soirée sur France Inter à 21h, c'est en direct et en public du festival Jazz à Vienne pour un concert hommage à John Coltrane avec Archie Shepp All Star, une soirée présentée par André Manoukian.